VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Diriec et Eric Manirakiza en votre compagnie. Bienvenue à l'édition de ce lundi et 17 août 2015. À la une ce soir.
Combat dans le nord du Mali, les forces pro-gouvernementales et les rebelles de la CEMA se sont affrontés à Anéfis.
République centrafricaine, une nouvelle plateforme politique, le Rassemblement centrafricain pour l'Union sacrée a été mis en place.
Notre rassemblement n'a pas d'objectif électoral, mais pour créer les conditions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale entre les Centrafricains.
Soudan du Sud, le président Salva Kiir rejette l'accord d'Addis Abeba signé par le chef rebelle Riek Machar et Pagan Amum du parti présidentiel.
Attentat à Bangkok, dans un sanctuaire très fréquenté, au moins 16 personnes tuées et 80 blessées.
Ne manquez pas nos segments sur l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Conflit dans le nord du Mali, de violents affrontements ont opposé les forces pro-gouvernementales du groupe autodéfense Touareg, Imgad et alliés, le Gatia, aux rebelles Touareg. C'était vers Anéfis, à environ 120 km au sud de Kidal, et ces parties ont pourtant toutes signé l'accord de paix. Le bilan de ces trois jours d'intenses combats s'élèverait à au moins un mort côté Gatia et 12 dans les rangs de la CMA, coordination des mouvements de l'Azawad. Deux chefs rebelles auraient également été capturés, nous dit Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Depuis le samedi 15 août jusqu'au lundi 17 août, des combats intenses opposent les éléments de la CMA à ceux du Gatia et alliés dans la région de Kidal. Les premiers affrontements se sont déroulés à quelques kilomètres de la ville de Kidal. C'est lundi 15 août, après des combats à Anéfis, les Gatia et alliés ont pris le contrôle de cette localité. Ils ont perdu un homme et un véhicule. Du côté de la CMA, le bilan est lourd. 12 rebelles ont été tués, 4 véhicules récupérés et 2 chefs rebelles capturés. Dans la même journée, les combats ont continué dans les environs de Kidal, plus précisément dans la localité de Tassik, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale de l'Adra des Iforas. Au même moment, les éléments de la CMA stationnés à Agelhok se sont réfugiés dans les camps de l'aménagement de cette localité. D'autres hommes en fraction dans la région de Kidal ont replié sur la ville de Kidal, abandonnant leur base, car les prochains combats entre la CMA et les Gatia seront autour et à l'entrée de la ville de Kidal, qui demeure l'enjeu et le défi pour les hommes de Gatia. Et alliés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Remont politique en Côte d'Ivoire, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle du 25 octobre. Des opposants affirment avoir été empêchés de tenir un meeting samedi à Korogo, dans le nord du pays, fief du parti au pouvoir. Nos installations du meeting ont toutes été saccagées par des jeunes du parti au pouvoir, a dénoncé David Samba, membre de la coalition nationale pour le changement. La police débordée a demandé à la délégation de quitter la ville après des échauffourées entre les jeunes pro-CNCE et ceux proches du régime, a affirmé M. Samba.
Allégation démentie par Joanne Biessan, porte-parole du Rassemblement des Républicains, le parti au pouvoir. D'après lui, le meeting a avorté en raison de dissensions internes au sein de l'opposition.
Au Burundi, le secrétaire général de l'ONU, préoccupé par la violence à motivation politique, Ban Ki-moon, condamne l'assassinat du colonel à la retraite Jean Bikomagu, ancien chef d'état-major de l'armée, tué devant sa résidence par des inconnus à Bujumbura le 15 août. Le secrétaire général réitère ses appels à tous les Burundais de reprendre un dialogue inclusif sans délai en vue de régler pacifiquement leurs différends. Il réitère également l'engagement des Nations Unies à soutenir les efforts visant à consolider la paix et la stabilité au Burundi.
République démocratique du Congo, l'ONU lance une campagne contre les violences sexuelles sur mineurs à l'attention de ses employés. La MONUSCO entend ainsi rappeler la tolérance zéro pour le personnel des Nations Unies en matière de violences sexuelles. Cette initiative intervient suite à la démission du chef de la mission en République centrafricaine sur fond d'accusations de viol par des casques bleus.
Le président du Soudan du Sud a refusé de signer un accord de paix proposé par les leaders régionaux de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est. Le texte visait à mettre un terme à la guerre civile qui ravage le pays depuis décembre 2013. C'était aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie, peu avant l'expiration d'un ultimatum fixé par la communauté internationale aux belligérants pour paraffer le traité. Selon la médiation, le gouvernement de Salva Kiir a demandé un délai de 15 jours supplémentaires. Jacques Aristide a les détails.
Ce devait être la date butoir, mais la montagne n'a couché que d'une souris, car les protagonistes du conflit sud-soudanais ne sont pas parvenus à un accord de paix total. Ce sont seulement Pagan Amoum, secrétaire général du parti au pouvoir, SPLM, et l'ancien vice-président Riek Machar, chef des rebelles, qui l'ont signé, mais pas le gouvernement qui a émis des réserves. Pourtant, la poignée de main auparavant entre le chef de l'État Kiir, présent dans la salle, et son ex-adjoint Machar, avait laissé entrevoir un accord définitif. Cette cérémonie de signature n'est pas complète sans la signature du gouvernement, a regretté le médiateur de l'IGAD, Seyoum Mesfin, d'ajouter que les autorités ont décidé de repartir dans leur pays et mener des consultations. Il a également indiqué que le président Kiir reviendrait d'ici 15 jours dans la capitale éthiopienne pour parachever cet accord de paix.
Pas de rassemblement constaté ce lundi en Guinée-Bissau. Les appels à cesser le travail et à manifester pour exiger la reconduction du Premier ministre destitué n'ont visiblement pas été suivis. Les possibles protestations faisaient craindre pour la stabilité de ce pays qui en est à son cinquième jour sans gouvernement. Simoes Pereira a été démis le 12 août par le chef de l'État, José Mário Vaz.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius en Afrique du Sud, le parquet va tenter d'obtenir en appel une condamnation pour meurtre et une peine de prison sévère contre l'ancien champion paralympique. En première instance, Oscar Pistorius n'a été condamné que pour homicide involontaire sur sa petite amie Riva Steenkamp. Conséquence, il doit sortir dès vendredi après avoir passé 10 mois en prison.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, inquiétude persistante en Chine après la catastrophe de Tianjin, qui a fait officiellement 114 morts. Les autorités chinoises s'efforcent de contenir des centaines de tonnes de cyanure hautement toxique sur le site des explosions. Nicolas Pinault, la colère gronde parmi les habitants.
Selon le vice-maire de Tianjin, environ 700 tonnes de cyanure de sodium étaient stockées dans l'entrepôt où ont éclaté les puissantes déflagrations la semaine dernière. Des opérations de nettoyage de grande ampleur, très difficiles et délicates, sont toujours en cours, selon M. He, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse dans cette métropole située à 140 km de Pékin. Les efforts de nettoyage sont compliqués par la présence dans la zone portuaire de quelques 18 000 conteneurs de fret maritime et par les craintes que des pluies annoncées dans la soirée ne favorisent la propagation dans l'air de cyanure d'hydrogène. Les équipes de secours ont construit des barrages de sable et de terre délimitant une zone de 100 000 m² autour du site pour éviter toute fuite de composants polluants. Des analyses d'échantillons d'eau recueillies au plus près du lieu des explosions ont révélé dimanche des niveaux de cyanure 27 fois plus élevés que la normale. Des experts militaires en armes nucléaires, bactériologiques et chimiques ont été déployés, tout comme des spécialistes du cyanure de sodium. Sur place, la colère monte. Environ 150 sinistrés, dont les appartements se trouvaient à seulement 600 mètres du lieu des explosions, ont manifesté ce lundi pour faire entendre leurs inquiétudes, mais aussi pour réclamer des indemnisations.
Nicolas Pinault, en Thaïlande, au moins 19 personnes ont été tuées, des dizaines ont été blessées dans un attentat à la bombe dans le centre de Bangkok, ce soir à proximité d'un temple hindou, un sanctuaire très fréquenté sur une artère du centre-ville à une heure de pointe, ont précisé la police thaïlandaise et les secouristes. Plus de 80 personnes ont été blessées dans cette puissante explosion, affirme le centre médical d'urgence.
Et guerre civile en Syrie, l'ONU condamne les raids aériens du gouvernement syrien hier sur un marché très fréquenté de Douma, à 13 km au nord-est de Damas. Bilan, près d'une centaine de morts. Bagessikoura nous en dit plus.
Il est inacceptable pour un gouvernement de tuer ses propres citoyens, quelles que soient les circonstances. C'est ce qu'a déclaré Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. Dans son communiqué, il explique que les frappes menées hier par des forces fidèles au président Bachar al-Assad ont été dévastatrices. Les attaques de zones civiles avec le lancement à l'aveugle de bombes aériennes telles que des bombes incendiaires sont interdites par le droit international, prévient M. de Mistura. L'envoyé spécial de l'ONU dénonce également les raids de l'opposition ainsi que les coupures d'approvisionnement en eau qui affectent les civils. L'accès humanitaire doit être assuré sans condition et les tueries doivent cesser. Ce conflit ne se résoudra pas de manière militaire, comme cela a été prouvé ces dernières années, réitère le représentant onusien. L'envoyé spécial appelle toutes les parties syriennes à mettre fin à tout acte de violence et à engager un dialogue. Les dernières séries de négociations à Genève en 2014 s'étaient soldées par un échec.
Bagassi Koura, le gouvernement israélien s'est dit aujourd'hui prêt à libérer Mohamed Alan sous condition. Monsieur Alan est le prisonnier en grève de la faim devenu un symbole palestinien du combat contre la détention sans inculpation. Cette libération devrait intervenir si Mohamed Alan accepte de partir pour un autre pays, mais son avocat a immédiatement rejeté la proposition formulée à l'occasion d'une audience de la Cour suprême, saisie par l'avocat pour obtenir la libération du prisonnier pour raison médicale. La Cour a décidé de siéger à nouveau mercredi.
Les renforts policiers et les nouvelles barrières de sécurité à l'entrée française du tunnel sous la Manche ont fait baisser les tentatives d'intrusion de migrants. Après un pic à 1700 essais le 3 août, seules 149 tentatives ont été enregistrées dans la nuit de dimanche à lundi, 130 dans la nuit de samedi à dimanche et 300 la nuit précédente selon les autorités françaises.
La Russie a accusé aujourd'hui l'armée ukrainienne de préparer une offensive dans l'est de l'Ukraine. Au moins 10 personnes, la majorité des civils, ont péri dans de nouveaux affrontements et les plus meurtriers depuis un mois sur la ligne de front.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Tatiana Monceau.
Le groupe français Bolloré et les gouvernements nigérien et béninois ont signé les conventions de concession d'exploitation et de construction des infrastructures du chemin de fer reliant Niamey à Cotonou. Une signature qui intervient près de 15 mois après les premiers coups de pioche portés en avril 2014. Niamey-Cotonou est une portion de la boucle ferroviaire ouest-africaine, un projet qui prévoit de relier par les rails Cotonou, Niamey, Ouagadougou, Abidjan et Lomé. En Angola, Standards & Poor's abaisse les perspectives de la note du pays. Elle passe de stable à négative. En cause, les déficits du budget et des comptes extérieurs entraînés par le recul des cours du pétrole depuis février 2015. Au Burkina Faso, les importations de poissons congelés en nette hausse. Le pays consomme en moyenne 100 000 tonnes par an, alors que sa production n'est que de 20 000 tonnes. Une production presque exclusivement consommée à l'intérieur du pays. La quantité insuffisante et le coût élevé du poisson frais obligent le pays à importer plus de 80 000 tonnes de poissons par an. Le commerce du poisson importé est donc devenu ces dernières années un marché porteur au Burkina Faso.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Tatiana Mousso.
Sport à présent, en football, l'AS Tanda est décroché le titre de champion de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas Bagassi?
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous. C'était hier à l'issue de la 26e journée du championnat. Il s'agit du premier sacre de l'histoire donc de ce club de l'Est du pays grâce à sa victoire sur le club Omnisport de Korogo, 2 buts à 1. Et d'après Foot Africa 365, après les 11 créateurs de Bassam en 1960 et 61, le Sporting Club de Gagnoa en 1976 et le CE Sport ces trois dernières années, l'association sportive de Tanda est la quatrième équipe de l'intérieur de la Côte d'Ivoire à être couronnée.
Les Diables Noirs de Brazzaville remportent la Coupe du Congo.
Oui, une deuxième victoire pour les tenants du titre. Ils ont dominé les Léopards de Dolisé 1-0 grâce à un but de Chabio Umbo juste avant la mi-temps. Match qui a eu lieu à Ouesso, à la frontière camerounaise. Le championnat étant suspendu, les Diables Noirs s'adjugent donc le trophée majeur de la saison. C'est leur septième victoire en Coupe du Congo. Ils deviennent ainsi le club le plus titré dans l'histoire de cette compétition. Grâce à ce succès, ils disputeront la Coupe de la Confédération la saison prochaine.
Et on connaît les finalistes de la Coupe du Mali.
Oui, la finale de la 55e Coupe du Mali opposera le 29 août la S11 créateur de Niarela et le Stade Malien, deux clubs de Bamako. Lors des demi-finales disputées ce week-end, la S11 créateur détenteur du trophée a battu la S Bamako 2-0, tandis que le Stade Malien s'est imposé face à la S Real Bamako par le même score.
À l'étranger, Samuel Eto'o qui refait parler de lui.
Eh bien, et de très belle manière, l'ancien capitaine des Lions du Cameroun a été l'auteur d'un doublé synonyme de victoire pour son nouveau club turc d'Antalya Spor, 3 buts à 2. Et rendez-vous tout à l'heure dans Sporama.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, la République centrafricaine. Une nouvelle plateforme politique dénommée le Rassemblement centrafricain pour l'Union sacrée a été mise en place hier à Bangui. Le but de cette formation politique, qui regroupe en son sein les anciens leaders des milices anti-Balaka et l'ex-coalition Séléka, est de promouvoir la paix et la réconciliation nationale. Félix Yepassi Zimbrou a joint l'un de ses dirigeants, le général Mohamed Moussa Dafane.
Vous faites bien déjà de parler des élections. Nous, notre rassemblement n'a pas d'objectif électoral ou électoraliste, si vous voulez. C'est-à-dire que nous avons mis en place un rassemblement dénommé Rassemblement centrafricain pour une union sacrée, pas pour aller aux élections, mais pour créer les conditions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale entre les centrafricains. Et donc, à double titre, d'abord la paix entre les centrafricains eux-mêmes, et ensuite, donc ça c'est l'attente du peuple centrafricain vis-à-vis de nous, et ensuite une autre attente qui est celle de la communauté internationale qui nous accompagne pour aller vers la paix. Donc il faut répondre à ces deux impératifs et donc créer les conditions de développement économique du pays à court terme.
Oui, mon général, cette plateforme regroupe en son sein combien d'entités ou partis politiques ?
Pour le moment, il y a des personnalités politiques, dont l'une, M. Sani Yalo, qui est une personnalité politique indépendante, et il y a le parti Messane, qui est le parti de l'ancien président, enfin le président fondateur de la SCA, Barthélémy Bouganda. La Séléka aussi est représentée, il y a aussi les anti-Balaka. Et donc voilà, nous voulons commencer déjà avec l'impulsion du forum de Brazzaville, où on avait signé l'accord de cessation des hostilités, parce que c'est de là que tout est parti. La paix commence à revenir à partir de l'accord de cessation des hostilités de Brazzaville.
Oui, autre question, mon général. Des voix s'élèvent pour demander la mise en place d'une troisième transition. Qu'est-ce que vous en dites ?
Vous savez, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Le Rassemblement centrafricain pour une union sacrée est un rassemblement, une plateforme pour accompagner le processus politique soutenu par la communauté internationale et notamment les États de la CEAC, donc la sous-région. Et donc nous ne sommes pas pour une nouvelle transition, mais plutôt accompagner ce processus politique jusqu'à son terme.
Mohamed Moussa Dafane, président de la nouvelle plateforme politique, le Rassemblement centrafricain pour l'Union sacrée.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
En RDC, près de deux semaines après la promulgation de la loi portant mesures d'application des droits de la femme et de la parité, l'élan commence à se délier au Sud Kivu. C'est le cas de l'Observatoire de la parité en RDC qui s'apprête à attaquer cette loi devant la Cour constitutionnelle du fait qu'elle ne répond pas de façon efficace aux revendications des femmes en matière de parité. Reportage signé Ernest Mouhero.
Alors que pour beaucoup, enfin, la RDC dispose d'un texte des lois pour la mise en application de la parité, à Bukavu, la directrice de l'Observatoire de la parité en RDC, Espérance Mawanzo, appelle les organisations féminines à se joindre à elle pour attaquer en justice cette loi qui, selon elle, se limite aux énoncés des principes de parité au lieu d'être la pierre angulaire qui devrait concrétiser la participation équitable de l'homme et de la femme dans la gestion des affaires de l'État. Espérance Mawanzo.
Il n'y a aucun mécanisme qui accompagne tout ce qui s'est dit ici. L'État fait ceci, l'État garantit, l'État est le premier responsable. Mais quoi ? Responsable dans quoi ? Et ça, ça ne va rien donner. Cette loi est vague pour moi et nous allons continuer à lutter, à combattre. Ça ne doit pas enchanter toutes les femmes. Moi, je demanderai à toutes les femmes, à toutes les organisations féminines d'ouvrir les yeux. On doit vraiment faire un front commun. Nous, dans l'Observatoire de la parité, on ne va pas essayer, mais on va attaquer cette loi. Au niveau de la Cour constitutionnelle, des textes qu'ils font passer, qu'ils votent pour faire plaisir aux Occidentaux, pour qu'on dise que non, il y a la promotion du genre. Mais en réalité, ce n'est pas ça.
Jean Chrysostome Kidjana, président national de la Nouvelle Dynamique de la Société Civile, estime, lui, qu'il s'agit là d'une avancée. Seulement, il craint que cette loi ne vienne gonfler la liste des lois non appliquées au pays.
Nous saluons cette promulgation par le chef de l'État et nous espérons que cette loi ne va pas rester qu'une simple lettre morte, qu'elle sera réellement mise en pratique, parce qu'au Congo, nous avons des lois, nous avons de très bonnes lois qui, malheureusement, ne sont pas d'application.
Que pensent alors certains hommes de Bukavu sur la parité homme-femme? Suivez leurs propos.
Peu importe la décision que la femme peut prendre, c'est l'homme qui sera toujours donné au point de décider.
La femme, ce n'est pas un objet. La femme, c'est une aide.
Un homme ne peut pas imposer son autorisation maritale, entre guillemets, pour refuser à sa femme d'aller travailler.
Parité, c'est pas favoriser la femme. Donc les femmes ne doivent pas attendre de poser des responsabilités comme la manne, comme un cadeau qui tombe du ciel.
La parité homme-femme en soi ne se situe pas dans les ménages. La parité homme-femme se situe au niveau du travail. C'est que la femme doit aussi travailler comme l'homme.
Qu'on puisse laisser les choses exister comme ça existait auparavant. Depuis la création, l'homme a été toujours au-dessus de la femme.
La loi portant mesures d'application des droits de la femme et de la parité est là, mais un besoin de vulgarisation se profile à l'horizon pour que les Congolais s'approprient cette parité homme-femme au quotidien. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Et nous partons maintenant au Sénégal. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar accueille chaque année des milliers de nouveaux bacheliers. Pour l'État du Sénégal, il est très difficile de caser tout ce beau monde. Parfois, les étudiants se retrouvent à 6 ou même plus dans une petite chambre avec un lit. Les amphithéâtres sont également insuffisants et certains suivent les cours par terre. Par ailleurs, le retard des bourses pousse les apprenants à sortir dans les rues et des manifestations souvent très violentes. Reportage.
Un monde fou. On se croirait dans une ruche d'abeilles. Aussi bien le campus social que celui pédagogique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ne désemplissent pas en cette période de l'année. Donner une chambre, un lit, nourrir et transmettre un savoir à ces milliers d'étudiants en vrai casse-tête. Au pavillon D, dans une chambre exiguë, se bouscule un petit lit, un ordinateur et un placard. Dans un coin, un lavabo. Idrissa est étudiant au département d'histoire en Master 1.
On avait détruit 3 ou 4 pavillons et ces pavillons contenaient plus d'étudiants que ces pavillons qu'ils viennent de construire là. Les conditions dans les amphis ne sont pas encore adéquates. Fac droit, il y a des étudiants qui confectionnent des sièges pour aller suivre les cours.
Difficile d'étudier dans ces conditions avec surtout le chevauchement des années universitaires. Pour le logement, le 31 juillet dernier, le président Macky Sall avait inauguré 2 nouveaux pavillons avec une capacité de 1044 lits. Il a été hué et accueilli par des jets de pierre. Pour Khalifa Diagne, responsable au Centre des œuvres universitaires de Dakar, les critères d'attribution de logements doivent être revus.
Ce sont les critères d'excellence, en grande partie, parce qu'il y a une partie même que je considère comme marginale, qui est réservée aux critères sociaux. Et je rappelle que pour les critères sociaux, il y a les étudiants handicapés, mais il y a d'autres étudiants aussi qui en bénéficient.
La bourse universitaire, le motif de grève le plus récurrent à l'UQAD. Des étudiants comme Suleiman n'ont toujours pas reçu leur bourse et attendent depuis plusieurs mois.
Je pensais que ça ne devait plus être un problème, puisqu'on s'inscrivait à 10 000 francs. Et maintenant, c'est à 50 000, 25 000 francs.
Pourtant, le ministre de l'Enseignement supérieur parle d'un changement positif dans cette université et concernant surtout le paiement des bourses. Marie Taounian.
Pour la première fois depuis plus de 30 ans, du mois de novembre au mois de juillet, les bourses ont été payées régulièrement avant la fin de chaque mois.
Aujourd'hui, il est difficile pour ces étudiants de parler de leur précarité. Avant, il existait des amicales dans chaque faculté, mais une bonne partie a été supprimée. Plusieurs étudiants doutent même de l'efficacité de ces mouvements étudiantins.
On ne peut pas parler de syndicalisme. Chacun pour soi, Dieu pour tous.
Comme solution, certains avaient proposé la fermeture temporaire de l'établissement. Mais Yves, ancien responsable d'Amical, n'adhère pas à cette idée.
C'est condamner ces étudiants au chômage et ils vont désapprendre. Ça aura un impact négatif sur l'économie du Sénégal.
Remettre l'UQAD sur les rails risque de prendre du temps et les étudiants n'en ont pas. Certains ont perdu des années d'études et d'autres plus. C'est le cas de Bassirou Faye, tué lors de violentes manifestations le 14 août 2014. Sœur Nana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Qui peut arrêter le groupe État islamique ? Un an après le lancement des opérations militaires américaines, le groupe continue de progresser. En Afrique, Boko Haram s'est rallié à son drapeau. Les États-Unis et leurs alliés doivent-ils repenser la stratégie anti-EI ? Les franchises africaines sont-elles un vrai danger ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Et ici aux États-Unis, l'actualité est marquée par le décès de Julian Bond, grande figure du mouvement pour les droits civiques. Il est mort samedi en Floride à l'âge de 75 ans des suites d'une brève maladie. Il aura joué un rôle majeur dans la campagne pour l'égalité raciale. Pour son portrait, Nicolas Pinault a joint John Whittington Franklin, directeur adjoint du Musée national d'histoire de la culture africano-américaine de Washington, D.C.
Il vient d'une famille d'éducateurs, même du 19e siècle, très très célèbre, Max Bond. Et lorsqu'il était étudiant, déjà son père était président d'une université. Lorsqu'il était très jeune, il a commencé à manifester. Tous les deux, ils ont formé le Student Nonviolent Coordinating Committee, John Lewis et lui. Alors déjà, avant l'âge de 20 ans, il était activiste. Il a créé des manifestations à Atlanta. Il a quitté l'université pour se mettre dans la lutte pour les droits civiques. Il a fondé aussi une institution très importante, le Southern Poverty Law Center, un centre qui est focalisé sur les issues juridiques où le Klan existe actuellement, qui est en danger, quelles lois sont en danger à l'heure actuelle. Il a fondé cette organisation. Il était président de 71 à 79. Ensuite, il est devenu chair d'une organisation nationale qui date du dernier siècle, the National Association for Advancement of Colored People. Il était le président de leur conseil d'administration pendant des années. Je l'ai entendu, je l'ai écouté et je l'ai admiré.
Quel héritage laisse Julian Bond?
Il laisse un héritage d'activisme pour toute la vie. Vous n'avez pas le droit d'aller à la retraite s'il y a un problème auquel la nation fait face. Il faut être engagé, il faut toujours étudier, il faut toujours agir, il faut toujours communiquer dans une société comme les États-Unis.
Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un cocktail paradoxal, un premier président africain-américain, Barack Obama, à la Maison-Blanche, et en même temps les discriminations qui persistent et ce grand débat sur les violences policières contre la communauté noire?
Oui, c'est un cocktail paradoxal, mais c'est la réalité des États-Unis à l'heure actuelle. Étant noir, marchant dans la rue ou conduisant, vous êtes toujours en danger. Et en même temps, il faut agiter du côté des élections à tous les niveaux, municipales, à l'échelle des États et à l'échelle nationale pour assurer les droits civiques.
John Whittington Franklin, directeur adjoint du Musée national d'histoire et de la culture africano-américaine.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, dans les grands titres ce soir.
Un séisme de magnitude 4.0 s'est produit ce matin dans les environs de San Francisco sur la côte ouest des États-Unis. L'Institut de géophysique américain précise que le tremblement de terre a eu lieu à une profondeur de 5.4 km et son épicentre se situe à 21 km à l'est de la mégalopole californienne. Le plus puissant séisme dans les annales de la Californie d'une magnitude initiale de 7.8 s'est produit le 18 avril 1906 à San Francisco, faisant quelques 700 000 morts plutôt, et la ville a été en grande partie détruite en raison des nombreux incendies qui ont suivi.
Et la Russie a accusé aujourd'hui l'armée ukrainienne de préparer une offensive dans l'est de l'Ukraine. Au moins 10 personnes, en majorité des civils, ont péri dans de nouveaux affrontements les plus meurtriers depuis un mois sur la ligne de front.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Les infos dans un instant après RM Show.
À la mise en onde ce soir, Michel Joseph. Présentation, Morgane Guiriec et Eric Manirakiza.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Clédou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.